שיחזה מי השם, עליכם תחיו, לאורכם טובים ונשנים נעימים. Nous poursuivons notre lecture, notre étude approfondie du livre Zera Shimshon. Nous sommes parachat Hayesara, au Darush 6. Il ratzon que ce limoud, que le mérite du maître, apporte à chacun la délivrance qui l'attend. Refoua Shelema pour les uns, de trouver une épouse pour les autres, un époux, d'avoir des enfants, d'avoir une meilleure parnassa, et d'avoir de sortir d'une, d'avoir une meilleure situation générale pour chacun et pour l'ensemble de l'humanité. Le Midrash, nous sommes d'Arushi 6. Le Midrash Yalkut commente le verset. Il est dit, Ve'Avraham Zaken Ba Bayamim. Avraham était avancé en âge, et Vachem Berach et Avraham Bakol. La Kadosh Baruch Hu l'a béni dans toute chose. Alors, à ce sujet, le Midrash dit, Oz ve'adar levusha vatishak leyom aharon. C'est un passou qui est dans Michelet, que nous disons dans le fameux Shetraïl. Il est dit, vigueur et splendeur sont sa parure. Et elle sourira au dernier jour, leyom aharon. Vigueur et splendeur, nous dit le Midrash, Oz ve'adar, ça forme la parure de la Torah. Parce qu'en réalité, tout le Shetraïl revient non pas sur la femme vertueuse, mais c'est une louange que nous disons à la Torah elle-même. Alors il est dit, vigueur et splendeur forment sa parure. La parure de la Torah. Quand est-ce qu'elle va sourire alors? Au dernier jour. Quand donnera-t-elle sa récompense dans le monde futur? C'est ça le sourire. De qui l'apprend-on? Alors de qui apprend-on ça? D'Abraham. Il est dit, si je l'ai distingué, c'est pas pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer les mitzvot de l'Éternel, de Kadosh Baruch Hu, en pratiquant la vertu et la justice. Ça, c'est un passage qui va être dit plus loin. Afin que l'Éternel accomplisse à Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. C'est la fameuse promesse. Par ce mérite, Abraham atteignit la vieillesse. Longueur des jours, comme il est dit, Orechamim bimina, Mismona Osher Bechavot, à sa droite, c'est la longueur des jours, à la droite de la Torah. Et, donc dans le monde où les jours sont d'une longueur infinie, alors richesse et gloire, Oz, Osher Bechavot, Bismola. Et à gauche, il y a la gloire et la richesse. C'est où? C'est en ce monde. Cela aussi, nous l'apprenons d'Abraham. Il est dit, tu t'es embelli d'entre tous les fils de l'homme. Yofia fita mi bene Adam. Tu t'es embelli mi bene de tous les hommes, de tous les fils de l'homme. Utsak hem besiftotecha. La grâce est répandue sur tes lèvres. Alken, c'est pour cela. Berachecha Elohim le'olam. C'est pour ça que le Seigneur, quand je vous te bénit pour toujours. C'est un pasouk dans les psaumes. 45, 3. Abraham, tu es devenu plus beau que ceux qui résident dans les hauteurs. Comme il est dit, voilà que les puissants ont enlevé un cri de douleur, les anges de paix versent des larmes. Hen harelim tsa'aku chutza. Malaché shalom marif keyun. Les anges, malaché shalom, ont versé des larmes amères. Ça, c'est un passage qui est marqué dans Ishaïa 33:7. Alors il lui dit, tu es devenu plus beau que ceux qui résident en ce monde. Comme il est dit, écoute-nous, Seigneur, il est dit au sujet chez Maenu, Adoni, Nessi Elohim Atabetochenu, c'est ce qu'on dit, les Bnehet. Ils lui ont dit, tu es le prince de Dieu, tu es celui qui dévoile Akadosh Baruch Hu, le Seigneur que Dieu a choisi en ce monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Aken, Berachecha, Elohim Leolam. C'est pour ça que le Seigneur t'a béni pour toujours. C'est le sens du verset. Vachem Berach et Abraham Bakol. Ça, c'est le Midrash, Yalkut Shimoni 24, sur la parachat Hayesara. Alors, nous dit le Rav Shimshon, Alav Shalom, ce texte est étonnamment obscur. Il ne semble pas avoir de sens. En effet, il convient de comprendre la progression des différents enseignements. Il est long, ce texte. Il comporte plusieurs éléments. Alors, il faut les comprendre de manière séparée, chacun, Et en plus, il faut savoir comment ils sont. Un enseignement s'imbrique dans l'autre. Quelle est l'interdépendance entre les différents les enseignements qui sont dits dans ce midrash? De plus, il y a lieu de les analyser chacun d'entre eux de manière autonome. Alors, le Rav Zera Shimshon en propose une compréhension et ouvre ainsi son développement. Tous savent certainement que notre engagement à la Torah se situe sur deux plans. D'une part, l'étude, et d'autre part, l'accomplissement des mitzvot. De sorte, de manière générale, nous dirons que l'étude en est l'intériorité, l'âme de la Torah. L'étude, alors que l'application est du ressort du corps. Elle en est l'aspect extérieur. Elle en est le vêtement. C'est-à-dire que quand on apprend la mitzvah, telle mitzvah, la mitzvah de Tfilin, on apprend le sujet, les gmarot, les psukim, les développements, etc. On développe les enseignements symboliques, etc. Quand on applique la mitzvah, on la comprend de manière parfaite. Donc nous avons l'étude, la compréhension, le savoir de la chose et l'application. L'application, c'est l'acte extérieur. Alors que l'étude, c'est l'âme qui va donner la vie à cet acte. Grâce à l'étude, on va appliquer de manière parfaite, on va avoir une intention parfaite, on va comprendre ce qu'on fait, etc. Donc c'est l'action, comme dit le Chovot HaLevavot, il y a deux éléments, deux facettes dans le service divin. Il y a le devoir des membres, c'est l'action. Et le devoir du cœur, c'est la connaissance, l'intention et la kavana. Alors cependant, mais il faut savoir aussi que chacune des deux facettes, elle-même, est composée de deux parties. De sorte que l'intériorité de l'étude se trouve dans la partie secrète du savoir, ou la kabbalah, alors que le vêtement en est le pshat, alors qu'il y a le sens littéral, le sens simple, et le sens profond. Donc chaque chose, il y a des niveaux. Le sens littéral, la partie apparente des choses, comme l'étude de la halakha. Alors comment doit-on appliquer telle mitzvah ou telle autre mitzvah? Ça c'est la pratique. Donc ça, mais comment je dois appréhender la chose? Quelle intention je dois y mettre? Quel est le sens profond de la mitzvah de tfilin, etc. Ça, c'est la compréhension interne. Alors, l'étude de la Torah comporte quatre niveaux. Le premier est la lecture du texte et sa compréhension simple. C'est ce que nous appelons le péchat. Lui-même s'ouvre sur un deuxième niveau, une deuxième compréhension, qui est l'allusion, le remez. Lui-même permet d'accéder aux deux rouches. C'est l'exégèse, le commentaire, l'allégorique, etc., ce qu'on peut en déduire pour l'application. Et après, enfin, c'est une ascension, atteindre le niveau dans quand l'étudiant accède au troisième niveau, alors il a une ouverture sur le quatrième niveau. Il atteint l'apogée de son ascension, c'est la compréhension profonde et le sens réel des choses. C'est ce qu'on appelle le secret, le sod. Ces quatre niveaux constituent le verger de la connaissance. C'est le fameux Pardès qui est mentionné dans les textes. Le mot Pardès faisant référence aux premières lettres de Pshat, Remes, Drush et Sod, comme nous venons de l'expliquer. Dans les Maximes, nos maîtres rapportent l'enseignement de Rabbi Elazar ben Hitzma, qui disait « Les lois relatives à l'offrande des nids de colombes, kinim, pour la purification d'une femme qui vient d'accoucher par exemple, et celles relatives à la période d'impureté de menstruelle, constituent le corps de la loi. C'est goufé Torah. Alors que les cycles célestes, la gmataria, la numérologie, sont les parures de la chokhma. Gmataria, c'est le parperaot, la chokhma. C'est ce qui ouvre, c'est le vestibule qui s'ouvre sur la sagesse. C'est comme ça que nos maîtres l'ont expliqué. De même pour l'application des commandements divins, l'acte lui-même se situe dans l'extériorité et l'intention qui l'accompagne en est l'intériorité. que serait une action sans intention. Un corps sans vie, un rite vide de sens, ou peut-être bien moins encore. C'est agir, ce serait bien pire, j'explique. Parce que faire une action qui est une mitzvah, la volonté divine, quelque chose qui est relié au monde les plus secrets, les plus saints, les plus importants, et le faire de manière secondaire, sans kavana, comme ça sur un pied, etc., c'est dégrader l'acte. C'est pour cela que l'étude comme l'action doivent être ornées par la vigueur et la splendeur. C'est ce que dit le verset « Oz vehada ». Cette vigueur est l'énergie vitale que nous insufflons à nos mitzvot, à notre étude. Et la splendeur en est le costume d'apparat qui les enveloppe. Il s'agit donc d'étudier et d'accomplir avec intention. D'une part, c'est sans intention, donc il n'y a pas l'âme de cette étude. Et deuxièmement, passion et enthousiasme d'autre part. C'est le vêtement de cette action. De sorte d'associer l'intellect, la compréhension, la kavana, c'est ce qu'on appelle ici la vigueur, rose, et les émotions. Et exprimer cette compréhension par les émotions. Si je comprends que la grandeur de la mitzvah, le sens profond de la mitzvah, quand je vais l'appliquer, alors je vais y mettre du cœur, je vais mettre de l'enthousiasme, de la passion, de l'énergie. Ça va apparaître. Alors, dans tout ce qui concerne le service divin, il faut mettre Oz et Hada. La mitzvah étant le vêtement de l'homme. Comme il est dit, que Adam et Hava se sont retrouvés nus. Alors nous disent les Chachamim, ça veut dire quoi? Ils sont devenus nus. Et ils disent qu'ils ont été obligés de se cacher. La Gemara dit, Chacham dit dans le Midrash, ils ont transgressé la seule mitzvah qu'ils possédaient. Ils ont délaissé la mitzvah, ils l'ont trahi. Donc ils se sont retrouvés nus. Israël est qualifié d'audacieux. De par ailleurs, Israël est qualifié d'audacieux parmi les nations. Comme il est dit, Azim sheba omot, nous dit la Gemara dans Betsa. C'est donc pour cela que cette qualité est intrinsèque à la Torah. Celui qui n'est pas téméraire et hardi dans son étude ne peut être. Alors son étude n'est que superficielle. Donc en vérité, il y a l'étude dans le livre, il y a lui, et lui, il y a un fossé entre eux. L'étude ne le pénètre pas, ne lui appartient pas. Il ne devient pas détenteur de l'étude, parce que cette étude reste superficielle. Au sujet de la splendeur, qu'est-il dit? Il dit Tzela recha aval devar emet vadarecha. Monte en selle pour défendre ta vérité, c'est ta splendeur. Le mot vérité, émet, ne peut faire référence qu'à la Torah. Il en va de même pour les mitzvot. En effet, nos maîtres accordent à l'étude le qualificatif d'important. Gadol alimud, l'étude est grande. Grande est l'étude. Chez Mivi, il est démasé. Le limud, l'étude, c'est l'étude qui amène l'homme à l'action. Donc grande est l'étude. Donc quel est le sens de ce mot grand? Celui qui accomplit de grandes choses mérite les honneurs. C'est le sens du verset. Pour ta splendeur, il est dit, ta splendeur monte en selle pour défendre la vérité. Donc, c'est-à-dire, il se grandit. Celui qui accomplit de grandes choses mérite les honneurs. Il doit être révéré aussi par ceux qui détiennent la science. De telle sorte que le chacham, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, doit se lever en présence de quelqu'un d'illustre, qui a fait des grandes choses, qui a agi, mais même s'il n'est pas chacham. Les anges ont créé, alors maintenant, faisant le parallèle entre les anges, puisque le verset dans Isaïe a cité les anges, faisant le parallèle entre l'homme et les anges sont créés de l'extériorité des mondes, alors que les âmes des justes émanent de leur intériorité, comme le dit Rabbi Haïm Vital dans Shara Kedusha. Le lieu duquel sont formés les anges est appelé Mahtsav HaMalachim, c'est là, de là où leur âme est taillée. Alors que le lieu duquel sont taillés, émanent les âmes des justes, ça s'appelle Mahtsav HaNeshamot. Celui-ci est bien plus élevé que le précédent. Selon les enseignements de la Kabbalah, les éléments les plus hauts s'intègrent dans l'intériorité de ceux du monde du bas, de sorte qu'ils en sont l'âme. C'est-à-dire, ils s'habillent, c'est ce qu'on appelle, ils tlapshut à la mode. Donc le monde le plus haut, comment il va descendre en bas? Alors il s'habille dans Comme nous disons par exemple, le Shem Avaya Yodke Vavke, c'est le Shem, le nom de Dieu le plus haut. Comment va-t-il prendre, apparaître en ce monde? Il va s'habiller à l'intérieur du nom Elohim, par exemple, dans la création du monde. Bereshit, Bara, Elohim, etc. Et quand, plus loin, il est dit que Dieu a créé le monde, la terre, la ciel et la terre, il y a marqué, Beyon, Bero, Hashem, Elohim. Donc on voit bien que le Shem Avaya, c'est lui qui a créé. Mais comment il a créé? En s'habillant, en étant à l'intérieur du Shem Elohim. Donc ça c'est le sens qui est mentionné ici. Les anges, par leur essence, sont donc liés à l'extériorité des choses, alors que les hommes le sont par l'intériorité. Il ressort de ce principe que les anges n'ont pas accès à la partie secrète et mystérieuse de l'étude de la Torah, mais uniquement à sa partie externe. Cependant, en ce qui concerne l'application des mitzvot, là, ils atteignent les plus grandes qualités de l'intention, afin de les accomplir. Kavanot a mitzvot veyehudim. Quand ils accomplissent la mitzvah, alors ils ont la force d'appliquer la mitzvah de manière parfaite. Alors, regardons maintenant la discussion qu'il y a entre Moshe et les anges quand ils montent pour recevoir la Torah. Alors, il dit, que disent les anges en s'adressant à Hachem? Il dit, Tena odecha la shamayim. Il dit, dis Hachem, dis, place ta gloire dans les cieux. C'est-à-dire que l'accomplissement des mitzvot, splendeur et gloire, doivent, comme il est dit, Hodecha, Tena, Hodecha, Hodecha. C'est le mot Hod. Doit rester dans les cieux, ne pas descendre dans ce monde. Ce qui est a priori un argument insuffisant. Nous avons vu que les hommes avaient un potentiel bien plus substantiel et plus fort que celui des anges. Pour les actions des mitzvot, les hommes sont liés à la partie extérieure et aux vêtements, de sorte qu'ils ont la possibilité de s'entrouvrir l'accès au niveau supérieur, aux énergies vitales des mitzvot. De plus, pour l'étude de la Torah, ils ont aussi, là, aussi, la faculté d'en atteindre toutes les quatre dimensions, comme nous l'avons dit. Les anges ne peuvent innover de nouvelles interprétations, ni dévoiler d'halakhot inédites. Ils restent figés dans les degrés dans lesquels ils ont été créés. Ils sont qualifiés de ceux qui sont debout. « Benatati lecha me'alchim » comme dit le prophète, « Je te donnerai la possibilité d'avancer parmi ceux-là qui sont debout. »« Ben ha'omdi ma'ele » Eux, ils ne peuvent pas avancer. Ils sont figés au niveau où ils sont créés. Ils ne possèdent pas, d'ailleurs, d'articulation, parce qu'ils ne peuvent ni monter, ni marcher. Le seul argument recevable qu'ils avancent est que, justement, puisque les hommes sont doués d'un tel potentiel et qu'ils sont capables d'atteindre les sommets les plus hauts, qu'adviendrait-il de tous ces acquis s'ils se hasvé shalom? Alors les hommes, ils tombent après dans la faute. Alors ils atteignent les sommets et ils dégringolent. Toute cette accumulation de sainteté serait-elle perdue, profanée, souillée, chas v'shalom? Il est bien dit que Kadosh Baruch Hu n'accorde aucune garantie, même en ses saints, qui Kadosh Baruch Hu dit, afelo bekodashav lo yamin. Kadosh Baruch Hu n'a pas confiance. Parce que l'homme aujourd'hui, les tzaddik demain, c'est pas ce qu'il peut devenir. Et donc tant qu'il est vivant, c'est pas ce qu'il peut devenir. Donc il peut prendre tout ce qu'il a produit comme énergie sainte, comme kdusha, et tout ça peut tomber dans les clipotes. Même pour celui qui s'est élevé au niveau le plus haut, le risque de faillir et de tout perdre est réel. Hachem ne donne aucune assurance. Devant un tel risque, comment accepter que la Torah soit donnée aux hommes? C'est ce que les anges avancent comme argument. Il est interdit pour tout ce qui concerne les choses saintes d'en causer la dégradation. Par exemple, si on a quelque chose de cop, la veille de Pessah, nous apportons ici un exemple. En mevi'im kodashim le bet apisul. On n'a pas le droit d'amener les choses saintes qui ont été consacrées comme des parties de sacrifice, à les amener à être brûlées. Alors, par exemple, si on a un corban qui doit être mangé en un jour et une nuit, alors il faut se dépêcher de le consommer, ne pas faire en sorte de se laisser aller, parce qu'en fin de compte, il va être brûlé. Ça, c'est absurde de faire ça. Donc ça revient à dire de quelque chose qui est ça. Il ne faut pas l'amener à la perte. Il en va de même pour toutes les mitzvot accomplies avec perfection par un homme qui plus tard se détourne du vrai chemin. Tous ses actes purs et saints risquent de rejoindre un lieu où sont brûlés les sacrifices impropres à la consommation, qui ont été invalidés. L'avantage des anges sur ces hommes réside justement en ce point. Ils ne sont pas voués au changement. Ils gardent leur sainteté, leurs actions conservent leur qualité. Ainsi, les anges observent les justes et attendent de voir s'ils vont se détourner ou ils vont se maintenir. Tant que le juste est vivant, il ne peut rendre aux anges la réponse qu'ils mériteraient d'avoir. Mais au jour de la mort, c'est là que le juste leur sourit. Il dit, Vatis hak leyom aharon. La rigolade, le sourire, la réponse aux anges ne peut venir que le dernier jour. Là, voilà, je suis maintenu même au dernier jour de ma vie, j'ai été constant. Et donc, je n'ai pas failli à ma mission. Ceci est la raison pour laquelle, quand les anges interviennent en disant, que fait là celui qui est enfanté par la femme? Malilou disha benenou. Ils font référence à l'acte de procréation, ainsi qu'à l'impureté de la femme lors de l'accouchement, qui est due à l'ouverture de la matrice. Ils prétendent alors que l'enfant en a atteint. L'homme aussi, voilà, l'homme, il vient au monde en apportant la touma. Donc lui aussi, il a en lui ce virus de touma. Comme dit le psalmiste, David Amer le dit, « Ainsi j'ai été enfanté dans l'iniquité, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. » De sorte que l'homme, de par sa conception et sa naissance, n'est pas digne de la sublime Torah. C'est l'argument des anges. Aussi, c'est Moshe, c'est Hachem lui-même qui encourage Moshe à leur répondre. Il doit avancer un argument irréfutable, que la Torah si est parfaitement à Israël, qu'ils en sont dignes et ils sont à la hauteur de la mission qui leur est conférée. En effet, pour tout ce qui concerne les règles de la cacheroute, chacun est digne de foi. Il n'est pas nécessaire d'avoir de témoins qui attestent que tel ou tel aliment est autorisé et cachère. La bonne foi d'une seule personne est suffisante. Comme il est dit, tant que la chose n'a pas été fixée comme étant interdite, alors, il est à noter que s'il fallait un vrai témoignage pour chaque aliment, il serait impossible à un homme de manger dans sa propre maison ce que lui prépare son épouse. De même, quand celle-ci lui affirme qu'elle est purifiée à la fin des périodes de la menstruation, elle est partie au mikvé. Comment peut-il la croire? Elle n'est pas digne elle peut pas témoigner sur elle-même en plus. Alors ça, c'est la Torah qui lui donne, qui confère à l'homme. Et des hand mais cette question est soulevée dans le Tosafot, dans Gittin, Davbet, Amudbet. Nous voyons donc que pour toutes ces choses, la parole de la personne concernée est suffisante. Ce qui atteste la qualité certaine de Am Israël. De là, il apporte une preuve que Am Israël, il est particulier. De plus, le regard de Dieu sur les hommes lors du jugement ne tient pas compte de ce qu'ils risquent de faire ou de devenir. Les hommes ne sont jugés que selon leur situation à un moment donné. Comme il est dit au sujet d'Ishmaël, Asher Usham, comme il est maintenant. Il convient d'ajouter que la partie extérieure des mitzvot que nous qualifions de vêtements et les actions physiques reliées à la matérialité du corps sont essentielles et incontournables. Sans elles, il n'y a rien. Que vaudrait, c'est-à-dire qu'il suffit pas de faire les kavanot et les intentions et l'étude, mais il faut appliquer, parce que qu'est-ce que ça vaudrait une âme sans corps? Que vaudrait une âme sans corps en ce bas monde? L'âme ne peut se dévoiler qu'à travers le corps. Il en va de même pour l'intériorité des mitzvot et des intentions. Elles n'ont de valeur que par l'action qu'elles accompagnent. Donc en accomplissant l'action, la manière d'accomplir la mitzvah va traduire, va dévoiler ce qu'il y a, l'étude de la personne. Combien il a étudié, comment il comprend, comment il dévoile les énergies. C'est tout son intellect se dévoile dans la manière d'accomplir la mitzvah. S'il n'y a pas l'accomplissement de la mitzvah, il n'y a rien. De plus, le corps des anges, l'âme ne peut se dévoiler qu'à travers le corps. Il en va de même pour l'intériorité des mitzvot et des intentions, les kavanot. Elles n'ont de valeur que par l'action qu'elles accompagnent. Le corps des anges n'étant pas composé de matière épaisse et vulgaire qui prend de l'épaisseur, ils ne sont pas concernés par les actes. Il n'y a pas chez eux d'action. De plus, ils ne peuvent innover des hidushim nouveaux dans la Torah. Ils ne peuvent pas dire une nouvelle halakha. De sorte que leur part, elle reste superficielle. Quand nos maîtres disent Gadol ali mouch et mevi l'idema, c'est grande est l'étude, parce qu'elle mène à l'action. Cela signifie que la connaissance des textes qui concernent une mitzvah spécifique, l'approfondissement, la maîtrise de ce savoir dans les différents niveaux, insuffle dans l'acte de mitzvah des énergies amplifiées, de telle sorte que la mitzvah prend une autre ampleur, elle grandit, elle se développe, pour prendre une dimension nouvelle. Plus grande est la connaissance, et plus grande est la ferveur, la passion, l'enthousiasme, l'entrain, la vivacité seront amplifiés, de sorte que l'intellect agisse sur les sentiments et les émotions. La connaissance commande le cœur, nous disent les sages. Cette grandeur de l'étude se retrouve dans l'action. Malgré la justesse de ses arguments, Moshe n'a pas osé répondre de lui-même, car l'objection des anges n'a pas totalement disparu. La Torah ne convient donc ni aux anges ni aux hommes, qui risquent toujours de se dérouter du bon chemin. L'exemple type étant celui du Hanan Kohen Gadol, qui au bout de 80 ans de service dans le temple, a adopté les thèses des hérétiques. Il est devenu tzedoki. C'est alors qu'Hachem lui dit « Ehos bekise kevodi, saisis le trône de gloire, mon trône de gloire, et réponds-leur. Ve'azor la'im tshuva. » Hachem enveloppe Moshe de par sa présence et l'illumine de son rayonnement. Les justes et les hommes pieux sont eux-mêmes le trône de gloire. Ainsi que cela est dit au sujet des Avot HaKedoshim. Avot, hem amerkava. Bien évidemment que s'ils atteignent ces sommets, Hachem les protégera et les préservera de la faute. Le verset dit, le méchant fait le guet pour perdre le juste. Tsofé, racha, la tzadi, kumvakesh, la mito. Le racha, le retzerara, il guette, il fait une embuscade pour le tzadik. Mais Hachem, lo yazvenu beados, Hachem ne l'abandonne pas. Il peut bien sûr arriver qu'un juste tombe. Mais ces cas sont rares et exceptionnels. Il ne convient pas d'en tenir compte pour empêcher Moshe de recevoir la Torah. La règle étant qu'on ne tient pas compte de la minorité qui s'annule devant la minorité s'annule devant l'Europe. Les enfants ont été pris comme garants lors du don de la Torah, comme il est dit. De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as établi ta puissance. Car le souffle qui sort de la bouche des enfants est de pureté, d'innocence. Il faut ajouter à cela l'argument de choix, que rien ne résiste au repentir, et que dans tous les cas, la porte reste ouverte pour accueillir ceux qui ont fauté et qui désirent faire tshuva. Akadosh Baruch Hu leur ouvre la porte, leur tend la main tendue, il suffit de s'agripper à cette main. S'il t'arrive de voir un sage commettre un délit le soir, sache qu'au matin, il aura déjà fait tshuva, nous dit Chachamim. Revenons au Midrash. Nous avons commencé notre propos par le Midrash, le fameux Midrash de Yakut Shimoni. Le mérite des justes jaillit jusqu'aux anges. Il ouvre les portes des réservoirs afin que les flux se diffusent à tous les niveaux, de telle sorte que les anges eux-mêmes en jouissent. Ils boivent cette Torah-là, ils en vivent. Cela se réalise au dernier jour de la vie, quand le crépuscule arrive. Comme le suggère le verset, l'homme se rend à son labeur, yotze Adam le paolo, ou la avodato adarev. C'est allusion à l'homme qui sort travailler au matin, quand le jour se lève, c'est le début de la vie. Et il termine sa besogne quand le soir tombe, quand le crépuscule arrive, c'est la fin de la vie. Celui qui a entièrement achevé sa besogne jusqu'au bout est digne d'en recevoir le salaire. Le juste qui s'est activé dans les bonnes actions, bien qu'il ne soit pas un érudit, il ne s'est attaché qu'à la partie extérieure et aux vêtements de la Torah. Celui-ci même s'habille de la vigueur et de la splendeur. Os ve'ada, le vêtement qui le part, possède ces deux ornements. Non seulement la splendeur, qui renvoie aux actions, mais aussi la vigueur qui fait référence à la connaissance. Nous avons vu qu'il doit être honoré aussi par ceux qui détiennent le savoir, de sorte que cet homme d'action se rit des anges et qui réclamait que la Torah leur soit octroyée seulement pour eux, qu'elle reste chez eux. La question se pose, à quand le salaire de la Torah et des mitzvot? Nous avons vu qu'il n'est pas possible en ce monde. Il est donc réservé au monde futur, après la mort. Là, monte dans les hauteurs pour jouir des félicités des mondes sublimes. Mais ce n'est pas juste. C'est un message. Voilà que le corps est associé à chacune des mitzvot, qu'il a peiné au labeur et à l'effort pour les accomplir. Il convient alors qu'il reçoive aussi son dû. Cela se réalisera à la résurrection, ce que le Midrash qualifie de monde futur, qu'il est préférable de traduire par le monde à venir. Quand donnera-t-elle sa récompense dans le monde futur, à venir? Les hâtis de l'avant. La question est pertinente, car jusqu'ici nous parlons du mérite de l'homme, d'action, uniquement dans la récompense concernant essentiellement le corps qui agit, et s'il facilite, ainsi, s'il faille attendre au dernier jour, le corps en sera privé. C'est ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah qui dit, Rabbi Tarfon dit, il ne t'incombe pas d'achever l'ouvrage. Lo alecha melacha ligmor. Mais tu n'es pas libre, ben ata ben horim, lit pater. Tu n'es pas ben horim, tu peux pas t'y soustraire. La matatora arbe, et ton lechasecha arbe. Si tu as étudié beaucoup de Torah, on te donnera, tu bénéficieras d'un grand salaire. Car ton maître d'ouvrage est indéfectible. Parce que là, Kadosh Baruch Hu, il est fidèle. Il te rétribuera. Toutefois, sache que le salaire des justes ne sera versé que dans l'avenir. Cet avenir est le temps de la résurrection, afin que la justice soit rendue au corps. Donc le corps aussi récupérera le salaire. De qui apprendront cela? D'Abraham, nous dit le texte. N'était-il pas possible de l'apprendre d'ailleurs, de le déduire d'un autre personnage illustre? Pourquoi donc spécialement Abraham? Abraham est qualifié d'homme d'action. Il a accompli toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Qui aime Abraham, quoi la Torah, l'ifié shinitna, nous dit la Gemara dans Yoma 28b. Il n'est pas dit qu'il a appris, mais qu'il a accompli. Les maîtres mettent l'accent sur les actions d'Abraham. Toutefois, à cette époque, la Torah était encore enfermée dans son écrin. Elle n'était pas encore dévoilée totalement, puisqu'il faudra attendre Matan Torah. Donc elle n'est pas accessible aux hommes, puisqu'elle n'est pas encore révélée. Abraham ne pouvait donc pas accéder à la multitude des facettes, à la compréhension complexe, etc. Mais qu'il ait réussi à lire et à déduire l'ensemble de la Torah en observant la création, il avait alors connaissance de la globalité du savoir. En effet, Hachem observa la Torah, istakel b'oraita ou bara alma. En effet, Hachem observa la Torah et créa le monde, de sorte que chacun des éléments qui la composent porte en lui la trace de la Torah. Chaque élément fait référence à un mot, une lettre, une mishnah, une halakha. Abraham médite, contemple cette création et en retire le lien qui la relie au Créateur. Cependant, la multitude des facettes et l'infinité des aspects de la Torah, comme les 4 niveaux de la lecture, les 49 aspects de chacune des halakhot, ou encore les 72 interprétations de chaque verset, et encore bien d'autres rayonnements, ne lui sont pas encore accessibles. De son temps, les anges même ne la pratiquaient pas, de sorte qu'Abraham ne pouvait que s'adonner totalement et avec perfection qu'au domaine de l'action. Ceci est le sens de l'enseignement qu'Hachem ne s'est dévoilé au Père que par le nom El Shaddai, alors qu'à Moshe, il le dévoile benant Bechem Yudke Vavke. Abraham a proclamé le nom du Seigneur en ce monde. C'est le Shem qui est prononcé, Ado, plus loin de Naï, qui correspond au monde de l'action. Cependant, Abraham reçoit la richesse, une longue vie, non pas comme récompense qui lui est réservée pour le temps à venir. Nous avons dit que la récompense est... Mais c'est une prime pour ses actes. Comme dit le sage, elle octroie la longueur des jours de sa droite et de sa gauche, richesse et gloire. La droite de la Torah nous octroie la vie éternelle et la récompense infinie. Il s'agit de l'essentiel du salaire qui revient au juste. De la gauche, elle dispense richesse et gloire en ce monde, qui ne sont qu'un moyen de pouvoir se consacrer au service divin, sans autre souci et préoccupation. Comme ça dit le Rambam, Hilchot Tshuva au chapitre 9. Nos pères ont refusé de recevoir leur salaire en ce monde, afin d'en laisser le mérite à leurs enfants. Le Midrash précise à nouveau, richesse et gloire de sa gauche, en ce monde. Cela nous l'apprenons aussi d'Abraham. Il est nécessaire de le souligner. Il ne faut pas se tromper et dire que la richesse d'Abraham et sa récompense qui est octroyée par la droite. Certains auraient pu se leurrer et penser qu'Abraham ne peut recevoir le salaire dans le monde futur. Car cela est réservé au temps où la Torah sera révélée en ce monde. C'est pourquoi il est rapporté le verset qui déclare qu'Abraham s'est révélé bien au-dessus des anges. C'est lui qui ouvre les portes afin que les flux de vie se répandent et se diffusent à tous les niveaux. C'est pour cela que le Seigneur t'octroie la bénédiction éternelle. Il est celui qui a tracé la voie et a ouvert les routes, comprendront tous les flux de vie qui se répandront en ce monde pour que la vie se perpétue. C'est là le chesed, la bonté, c'est la clé de tout. Abraham, dès lors, n'est plus un personnage, une personne privée, mais une mida. C'est une qualité, il devient une référence, c'est un étalon, l'étalon de la mida de chesed, celle qui donne la vie, l'amour. En effet, Abraham, de par ses actions, s'est élevé jusqu'au niveau à endosser cette mida pour lui donner une réalité en ce monde. Le mot beracha a le sens de propager, augmenter, diffuser, amplifier. Quand nous récitons une bénédiction, C'est le sens qu'il faut donner au mot Baruch. Il s'agit d'ouvrir les vannes des réservoirs d'abondance afin que le jet qui s'écoule soit de plus en plus puissant en qualité et en quantité, qu'il se répande sans limite dans les moindres coins de l'immense création du Seigneur, que la vie se diffuse. C'est ça la volonté d'Hachem. Tous les flux sont accompagnés, guidés et dirigés par le Hesed. Comme dit le verset, « Yoma mitzavé Adonai hasdo » Le jour, l'Éternel ordonne sa bonté. Le jour, nous dit le Zohar, il s'agit de tous les jours de l'existence jusqu'à la fin des temps. Chacun est d'une qualité particulière, mais tous sont contenus dans le premier des jours, le Chesed. Ce jour, c'est Abraham lui-même qui ouvre la marche devant les enfants d'Israël dans le désert, comme il est dit, le jour, Hachem marchait devant eux, Yomam, par la nuée, par la colonne de nuée. Ce mot Yomam fait référence à Abraham, le dit le Zohar. Et quand bien même il aurait joui des richesses de ce monde, toutes les récompenses sont réservées pour ses enfants, pour toujours. C'est-à-dire, pour tous les jours. C'est le sens de la bénédiction éternelle qui nous est octroyée. C'est ça, Yomam. La bracha que Abraham diffuse, elle se répercute, elle est gardée jusqu'à la fin des temps pour se répandre de manière, comme il faut à chacun, à chaque enfant de Bnei Israël. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen. Cette étude est dédiée à l'Eloui Nishmat pour l'élévation de l'Ambro Hamad Zikolet Batninet. Mordechai Bariza, Benyamin Yaakov Barzouar, Yitroud, Gabriel Iliou, Barpenya Zuchan, Yvette Halou, Ben Batjili, Thiel Nafshan, Tsob Surah, Haïmamen, pour la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Denis Sanfi, Barzvora, Yoshua, Yosef Bar Esther, Sarah Rachel, Bat Yodit Esther, Yodit Eugenie Michel, Bat Rachel, Haya Mushka Esther, Bat Sipora, Josim Naomi, Bat Yvette Esther, Haïm Bar Simi, Amram Bar Yakut. Eliaou bar Frecha, David bar Saada, Tadur Vivian bat Naomi, Shimon bar Josephine, Yirmiya, Jérémy, Haïm bar Esther, Saada bat Mesodi, Nathalie Shoshana bat Nicole, Colette Lala, Asher, Mesod ben Mesoda, Régis Shlomo bar Yola Elian, Moshe Eliaou bar Levana, Shalom bar Simi, Bracha bat Haya Feigel, Haïm bar Shlomit. HaKadosh Baruch Hu leur octroie la santé et une longue vie. Anna Elna Refana Lahem, que tous ceux qui sont en attente d'avoir un enfant, d'avoir une meilleure situation, de fonder un foyer et de sortir de certaines oppressions, HaKadosh Baruch Hu leur remplit de joie et de bonheur toute leur vie. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Que le mérite du Rav nous accompagne.